le bout de la langue. Ça va faire des histoires. Une émission proposée par Virginie Komanicki.
Je suis entrée dans une forêt sans arbres, la tête la première. J'ai suivi un fil d'eau intarissable. Il m'a tout raconté, sans dire un mot. À la source des sources, j'ai vu se mélanger des récits de partout, de longtemps, de toujours. Il parlait avec aujourd'hui et demain les écoutait. Alors, à pleine bouche, j'ai puisé. J'ai tourné ma langue cette fois. Tu me crois ? Tu ne me crois pas ? Pourtant, c'est là. C'est sur le bout de ma langue. Cette année, les enseignants de l'école du Ginchet à Dieulfi ont décidé que le conte viendrait ricocher sur tous les murs de l'édifice. Ils ont senti que la mise à l'arrêt, la privation de liberté que nous subissons tous depuis des mois, nous mettait en urgence de trouver des nouveaux chemins pour s'échapper, sortir des murs, réenchanter le réel et redevenir acteurs de nos vies. Ainsi, pour toute l'année, le conte y est à l'honneur à travers le projet Rencontre en conte. Philippe Mérieux parraine ce projet. Tu sais, ce matin, j'ai une histoire à raconter. C'est une histoire à toi, mais aussi pas vraiment. Puis quand tu seras plus là, je la raconterai encore. C'est vendredi. Depuis 4 semaines, je nourris des cercles de raconter auprès de 2 classes de l'école publique du Ginchet, à Dieulfi, dans la Drôme. Depuis 4 semaines, à travers des récits issus du répertoire oral traditionnel, je fabrique avec les enfants ce terreau sur lequel vont pouvoir germer leurs premières racontées. Depuis 4 semaines, à travers des jeux, on réveille nos sens, on ouvre les portes de l'imagination, on consolide les fils qui tissent les trames d'un récit, on en savoure les mots, leur texture, leur portée, on les chante, on les rythme. Depuis 4 semaines, je vois les regards des enfants qui s'allument, pendant qu'ensemble, on refabrique du bien commun en prenant soin d'un cercle, dans lequel le partage est à l'honneur. L'immatériel est un trésor, le plaisir un puissant moteur et nos caboches de véritables petits cinémas. Et ce matin, tandis que la classe de CP se prépare à entrer dans notre salle, ce petit gars m'attrape l'oreille. « Tu sais, ce matin j'ai une histoire à raconter. C'est une histoire à toi, mais aussi pas vraiment. Et puis, quand tu seras plus là, je la raconterai encore. Ah ouais ?» Et quand toi tu seras plus là, tous ceux qui l'auront entendu la raconteront encore aussi. Bah oui. On attaque un peu fort ce matin. Du haut de ses 6 ans, ce petit gars est en train de me dire combien ses récits, l'air de rien, ont déjà bien fait leur boulot. Et à coup de langue symbolique, on est en train de se dire des choses importantes. À savoir que nous ne sommes pas éternels, que quelque chose de nous va rester après qu'on sera parti. Que nous sommes des passeurs. On transmet ce dont on hérite. Et puis aussi, que quelque chose de moi se dit dans ce que je raconte, que j'y suis libre d'agir, que raconter, c'est une façon d'être au monde, que ces récits sont puissants, tellement puissants qu'ils traversent le temps. Et puis, enfin, on est en train de se dire aussi que ces contes, toute cette oralité et ce qu'on est en train d'en partager ne sont pas du tout anodins. Ça fait quand même beaucoup dans une si petite phrase. Je souris. On entre dans la salle et le cercle se met en place.
Et cric, et crac, et l'histoire va sortir du sac. Il y avait une fois, il y a bien longtemps de ça, il y avait une fois un roi. Puis ce roi, c'était un tyran, il voulait que tout le monde se prosterne sur son passage. Un jour, comme ça, il arrive dans un village. Tous les habitants sortent dehors pour saluer le roi. Ben ce jour-là, tout le monde a baissé la tête devant le roi, tout le monde. Sauf un, celui-là c'était un petit enfant. Mais Laurent était pas fou, hein. Il a remarqué tout de suite, tu l'as dit, dis donc toi. Pourquoi tu m'as pas salué? Ben l'enfant n'a pas répondu. Il a seulement dit, je vends des histoires, des tristes et gays. Un franc les tristes, deux francs les gays. Lesquels voulez-vous acheter? Il a dit. Qu'est-ce que tu dis? Je vends des histoires, des tristes et gays. Un franc les tristes, deux francs les gays. Lesquels voulez-vous acheter? Tu vends des histoires? Oh, écoute, je suis pressé, moi, j'ai pas le temps. Bon, allez, vends-moi une histoire à un franc, allez, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi, je suis pressé. D'accord, il a fait l'enfant. Il a commencé à raconter, il a dit, et cric, et crac. Et l'histoire est sortie du sac. Il était une fois un roi. Puis ce roi, c'était un tyran, il voulait que tout le monde se prosterne sur son passage. Un jour, comme ça, il arrive dans un village. Tout le monde sort dehors, tout le monde salue le roi. Et ben ce jour-là, tout le monde a baissé la tête devant lui, tout le monde. Sauf un, celui-là c'était un petit enfant. Mais le roi était pas fou, hein. Il a remarqué tout de suite, il l'a grondé, il lui a dit, dis donc toi, pourquoi tu m'as pas salué? Ben l'enfant il n'a pas répondu. Il a seulement dit, je vends des histoires, des tristes et gays. Un franc les tristes, deux francs les gays. Lesquels voulez-vous acheter? Il a dit. Ben ce roi-là, on savait déjà partout dans le pays que c'était un tyran. Ça c'était un secret pour personne, même les petits-enfants ils savaient ça. Ben ce jour-là, on a appris quelque chose de plus. On a appris qu'en plus d'être un tyran, ce roi-là, ben c'était un avare. Parce qu'il a acheté seulement une petite histoire à un franc. Il a dit, le roi, dis donc, t'as pas peur, toi, hein? Tu sais à qui t'es en train de parler, là? L'enfant, il a regardé le roi, il a dit, mais vous avez ri. Alors vous me devez le franc de plus. Quand il a entendu ça, le roi, ça lui a fait drôle. Ça lui a fait remonter du plus profond de son ventre quelque chose de chaud, quelque chose de doux qui est monté lentement comme ça jusqu'à son visage. Oh, puis cette chose-là, il y en a dans tous les pays du monde. Il y a des pays où on appelle ça l'amitié, et puis des pays où on appelle ça tout simplement le temps. Et le roi, il a retrouvé ce qu'il avait perdu depuis bien longtemps. Alors, il a regardé l'enfant, puis il lui a dit, tu sais, je t'ai menti, c'est pas vrai ce que je t'ai dit tout à l'heure, je suis pas pressé, tu penses, je suis le roi, je fais ce que je veux. Puis tu me plais bien finalement, t'as pas eu peur comme les autres, ça me change un petit peu. Puis si tu veux, on va faire une petite promenade tous les deux sur la colline, ça te dirait ça? D'accord, il a fait l'enfant. Et maintenant, le roi et l'enfant, ils se promènent tous les deux sur la colline, sous les grands arbres. Le roi, il a marché avec sa grosse main sur la petite épaule de l'enfant. Puis ils ont marché des heures et des heures, sans rien dire. Parce que tout le monde sait ça. Quand on est bien, on n'a pas besoin de parler. Puis, au bout d'un moment, l'enfant, il s'est arrêté, puis il a dit au roi, « Puisque tu veux bien partager avec moi un peu de ce qu'il y a de plus précieux au monde, si tu veux, je peux te raconter une histoire qui n'a pas de prix. Une histoire que je pourrais jamais te vendre. Ça te dirait ça? Bien sûr que ça me va, il a dit. Allez, vas-y, raconte. D'accord, il a fait l'enfant. Il a commencé à raconter, il a dit, et cric, et crac. Et l'histoire est sortie du sac. Il était une fois un roi. Puis ce roi-là, c'était un tyran. Il voulait que tout le monde se prosterne sur son passage. Un jour, comme ça, il arrive dans un village. Alors tout le monde sort dehors pour saluer le roi. Ben ce jour-là, tout le monde a salué le roi, tout le monde. Tout le monde a baissé la tête devant le roi, sauf un. Celui-là, c'était un petit enfant. Ah, mais le roi s'est fâché, il l'a grondé, il a dit, dis donc toi, pourquoi tu m'as pas salué? Ben l'enfant, il n'a pas répondu, il disait toujours, je vends des histoires, des tristes et gays. Un franc les tristes, deux francs les gays. Lesquels voulez-vous acheter? Il a dit. Ben on savait déjà partout dans le pays que c'était un tyran. Seulement, il a resté une petite histoire à un franc, et puis l'enfant, surtout, il a fait sourire le roi. Et avec ce sourire-là, le roi, il a retrouvé ce qu'il avait perdu. La chose la plus précieuse au monde. La chose qui coûtera toujours le plus cher. Le temps. Et maintenant, le roi et l'enfant, ils se promènent tous les deux sur la colline. Et puis, ils sont devenus amis. Ben, tu vois, dit l'enfant au roi, tu vois cette histoire-là? Ben, je peux pas te la vendre quand même, hein? Puisque c'est déjà la nôtre à tous les deux, en ce moment. Et juste au même moment, il y avait un pommier à côté. Il y a trois pommes qui sont tombées par terre. Alors l'enfant s'est penché, il a ramassé une pomme, il l'a regardée, il a frotté sur sa manche parce que c'est plus joli quand ça brille. Hein. Et puis crac, il l'a mangée. Puis il a dit au roi, C'est celui qui raconte les histoires qui est toujours le premier servi. Puis il a pris la deuxième pomme. Puis il a dit, la deuxième, c'est pour celui qui a écouté l'histoire. Il a donné la deuxième au roi, et le roi, craque, il a mangé sa pomme aussi. Puis quand il a fini sa pomme, le roi, il a regardé par terre, il a dit, mais regarde, il en reste une. On la partage? Oui, il a dit l'enfant, mais pas comme tu crois. Regarde bien. L'enfant, il s'est penché, il a ramassé la dernière pomme, crac, il l'a ouverte en deux. Et il a dit, tu vois cette moitié? Ah ben regarde. La pomme, elle a filé au ciel, elle est tombée tout au fond derrière, à l'horizon. Il a dit, tu vois, cette moitié là-bas. Ben, c'est pour celui qui a raconté l'histoire il y a bien longtemps, bien avant moi. Et l'autre moitié, c'est pareil. Elle a filé au ciel et puis elle est tombée à l'autre bout de l'horizon. Il a dit, tu vois, l'autre moitié là-bas. Eh ben, c'est pour celui qui racontera l'histoire bien plus tard. Quand ni toi ni moi ne serons plus là, ni pour l'entendre, ni pour la raconter. Et cric, et crac, et l'histoire elle retombe dans son sac.
Suzy Platiel est une ethno-linguiste retraitée du CNRS. Dans les années 60, elle est partie au Burkina Faso pour travailler sur la langue San, exclusivement orale. Elle y découvre l'ethnie des Sanan chez qui l'éducation passe par les contes. Au fil des années passées à travailler sur la langue San, mais également à partager le quotidien de ces personnes et puis en apprenant leur langue, elle s'aperçoit que le conte est un outil fondamental d'éducation par lequel le petit enfant accède à la parole articulée mais aussi au raisonnement logique et à la compréhension des structures qui feront de lui un être humain, un être social et un individu. Elle va consacrer le reste de sa vie à cette étude. Elle teste ses hypothèses et forme des conteurs à les tester dans des classes en France en instaurant une heure du conte dans le cadre de cercles conteurs. Elle a constaté qu'au fil des semaines, les élèves développent leur capacité de concentration et d'écoute, prennent goût à la lecture et deviennent plus solidaires les uns des autres. Ils progressent dans toutes les matières.
J'avais enregistré des tas de soirées. Et dans mes enregistrements, j'avais effectivement plein de gosses qui racontaient à partir de l'âge de 4 ans. Et que d'ailleurs, ça m'avait étonné de voir comme ils racontaient formidablement à partir de cet âge. Donc, j'ai repris mes contes et je les ai étudiés comme linguiste. Puisque moi, comme linguiste, je sais ce dont on a besoin pour maîtriser le langage. Comment se fait la progression de l'enfant ? Et quand se raconte, soit le soir, dans les soirées, où il y a des adultes et des enfants mélangés. Donc il faut savoir que depuis la naissance, l'enfant entend des contes. Un autre lieu, c'est dans la case de la maman. Toujours seulement en saison sèche. 6 mois, on raconte. 6 mois, on raconte pas. Et c'est interdit, totalement interdit, de raconter. Parce que ça empêcherait la pluie de tomber. Donc dès que le petit garçon ou fille entend d'autres enfants raconter, évidemment, il a envie de faire comme les plus grands. Donc il va réclamer de raconter. Donc, on va lui dire, ben oui, raconte. Donc il va commencer à raconter et il est totalement incapable. Il ne se rappelle pas tout, il ne parle pas très bien, etc. Personne ne lui dit, tais-toi, tu nous casses les pieds. Personne. Aucune agressivité, Jamais. 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 L'enfant, c'est un adulte en puissance. Et il est respecté comme un adulte en puissance. C'est pour ça que quand il apprend le conte, etc., on ne va pas l'engueuler, on ne va pas le traiter d'imbécile, et on n'est pas dans une compétition. On a intérêt à ce que tout le monde réussisse.
Le temps de boucler tous les dossiers, de trouver les financements, le projet a pu prendre corps. On s'est d'abord rencontrés, conteuses et équipes enseignantes, pour croiser nos regards, nos attentes, nos envies, et puis ajuster un peu nos petites musiques. Le conte à l'école est encore bien souvent abordé en tant que matière littéraire, d'abord écrite, et on y connaît surtout les jeux de variation autour de Perrault. Dire un conte à l'école, c'est ainsi la plupart du temps oralisé de l'écrit, avec la kyrielle de posture, blocage et ajustement pour un regard institutionnel omniscient que ça va induire chez l'enfant. Ainsi, ouvrir les portes de l'oralité va d'abord impliquer de régénérer le goût de l'impalpable et pouvoir se dessiner des chemins de liberté. Tracer les contours d'un monde méconnu, permissif, alléchant et puis vertigineux, tellement il contient de possibles et de promesses. C'est enfin refaire société, redéfinir ce que vivre ensemble veut dire et mettre le partage au cœur des échanges. Ainsi, nous nous sommes d'abord accordés sur le principe que s'il s'agissait de plonger dans l'oralité, il serait important de ne pas passer par l'écrit durant la mise en place des cercles. On s'est aussi accordé sur le fait qu'on ne cherchait pas à fabriquer une quelconque production, mais plutôt à inscrire ses actions dans le temps. Faire confiance. Et puis patiemment voir éclore les compétences dans un climat propice et poser tranquillement. On a aussi posé que des cercles de raconter pourraient se diffuser ensuite, que la radio pourrait être un média intéressant pour finaliser et garder une trace.
Pendant les deux premières semaines, c'est moi qui vais raconter. Pour vous fabriquer une espèce de réserve, comme une boîte à histoire. Et puis à partir de la troisième semaine, on partagera les racontés. C'est-à-dire que ceux qui se sentiront pourront raconter une des histoires qu'ils ont entendues ou une des histoires qu'ils connaissaient avant.
Et les enfants, je suis toujours là. Écoutez ça, puis essayez d'en faire autant. Allez, vas-y, mon petit loup.
Continue en silence dans la tête. Et là, c'est juste comme au cinéma, je regarde les images.
Dans ma tête et dans mon cœur, je dois vraiment voir de quoi je vais parler. Et de qui surtout.
Parce que si tu dis pas le nom...
Si tu dis pas le nom, tu peux le décrire. Mais par contre, si tu ne l'as pas vu, tu sais pas de quoi tu parles. D'ailleurs, il y a des personnages qui n'ont pas de nom, qui s'appellent une fille ou un garçon.
Quand on est go avec lui, en fait, on ne trouve pas de nom parce qu'on a parmi 200 personnages, donc on va pas trouver 200 noms quand même.
Bah, on pourrait, mais c'est un gros chantier. Aujourd'hui, de plus en plus,
C'est vous qui racontez. Je vais commencer pour ouvrir le cercle, si vous voulez bien. Et puis... T'as raison, dis donc. Il est dans mon carton. Je vais sortir. Je vais prendre ma clé. Je la mets dans la serrure. Et puis je la tourne. Hé, cric. Et cric.
Et
la porte peut s'ouvrir. Maxime m'a demandé comment j'étais arrivée, je te le raconte parce que. En fait, je suis sortie de chez moi et devant chez moi, il y avait mon tapis volant qui m'attendait. Je suis montée dessus et. J'ai claqué des doigts, mais en cours de route, je vois sous la brume un petit scintillement. Alors j'ai fait descendre le tapis, et je suis allée cueillir ce qui scintillait, c'était des pièces d'or. Et à peine elles se sont retrouvées dans ma main, elles se sont transformées en lave, la lave m'a brûlé la main, elle me l'a cuite. Ça tombait bien, j'avais pas pris mon petit déjeuner, alors j'ai mangé ma main. Je me suis régalée, et depuis elle a repoussé, en tout cas c'est comme ça que je suis arrivée.
Ce matin, quand je me suis réveillée... J'ai dessiné tout ça, mais quand je suis sortie de ma maison, j'ai vu un dragon. Ben, je suis montée dessus, il m'a parlé. Donc on a fait le tour de la ville. Et à la fin, je regarde l'heure, c'est l'heure d'aller à l'école, mais lui, il veut pas. Donc là, il commence à voler de partout. Il va en bas, il remonte, il tourne, il fait n'importe quoi. Et d'un coup, je crie, il me repose par terre et j'ai dû y aller à pied.
Moi, je suis venue en surf, comme tous les jours, comme tous les matins. Il y a la vague de... 7h35, je crois. Mm-hmm. Comme je dois dormir un match devant chez moi sur la plage, je me réveille très vite pour pas la rater. Et à 7h35, elle passe et elle me dépose au pied de l'école du Cherchet.
C'est
pratique.
Et toi? T'es venue comment ce matin? Ouais.
Une chauve-souris géante, elle m'a emmenée et après elle m'a déposée.
T'es montée sur son dos? Oui. Et vous êtes passé par où?
On a fait toute la terre et après on est venu à l'école.
Oh. Elle va aller vite, non? Voilà.
Oui, j'étais bien accrochée.
J'ai failli vomir.
T'as failli vomir?
Oui.
Je suis descendue de mon bâtiment. Après, il y avait un bus qui était au milieu.
Ouais.
On est parti en route et il y avait une voiture au milieu et on a tamponné. Et j'avais 134 os fracturés.
Oh mon Dieu.
Et après, j'ai reparti à pied par terre avec mes...
Avec tes os qui rompaient, quoi.
Ouais.
Tout détaché.
Et ils se sont remis dans mon lit.
Quelle chance. Des petites devinettes pour
ouais.
Se chauffer la tête.
Ouais.
J'en ai une dans le fond de mon sac. Et puis si t'en as, ce sera à toi. Vas-y.
J'en ai deux.
Ouais, t'en choisis une.
D'accord, maintenant pour répondre. Quels sont les deux animaux les plus féroces au monde? Non. Gabriel?
Un taureau?
Non.
Deux dinosaures T-Rex.
Non. La lune.
Un lion.
Non. Renard.
Un requin blanc.
Non.
Un ours polaire.
Non.
Allez, encore une proposition
Un gros requin blanc.
Non.
On t'écoute.
Je sais pas.
Tu peux nous donner la réponse.
Une tortue et un serpent. La tortue, elle tord et elle pend, et le cerf...
Pend est mort.
Elle tord et elle tue, et le serpent, il...
Mort.
Il pend. Il serre et il pend. Serpent. Ouais,
une autre devinette? Vas-y.
Quand on tire la queue d'une vache, on obtient quelque chose.
Quand on tire la queue d'une vache, on obtient quel fruit?
chou.
Ça passe dans
une vache qui rit.
Non. Ça passe dans le melon. C'est un melon.
C'est dans le melon.
Quand tu tires, elle fait melon.
Dans le melon.
Au début de melon,
la melon.
Une autre?
Nasreddin, et ce Nasreddin, il avait un fils. Et ce fils, il grandissait, mais il était mal dans sa peau. Il bougeait dans tous les sens, il avait mal de partout. Et un jour, il va voir Nasreddin, donc son père, et il lui dit je suis pas bien, t'as pas vu que mon corps est tout de travers, je me sens bizarre tout à coup. Et là, le père, il dit mais tu sais quoi? Demain matin, on va aller au marché. Le lendemain matin, ils sont allés au marché avec l'âne.
Nasreddin, il a un petit peu peur de sa femme, donc il va au marché. Il va acheter sa viande. Mais là, un gros aigle vient lui prendre sa grosse viande. Là, il commence à rire. Sa femme lui dit pourquoi tu rigoles, Nasreddin? Non, parce que l'aigle il a pris la viande, mais il a pas pris la recette.
Voilà. Il était une fois Nasreddin. Et il mettait des pincées de sel autour de la maison. Son voisin, il est descendu et il a dit qu'est-ce que tu fais, Nasreddin? Bah, je mets du sel autour de la maison pour pas que les tigres viennent. Mais il n'y en a pas dans cette région. Voilà la preuve que ça marche.
Je me souviens d'une petite fille. À l'issue d'une racontée, je demandais aux enfants, à votre avis, quelle est la différence entre les contes que vous lisez et ceux que vous venez d'entendre? Ah, ben là, on les voit vraiment, alors que quand on les lit, on voit pas trop. Bon, et maintenant, vous imaginez si on vous projetait en film les histoires que vous venez d'entendre. Et là, la petite s'était mise à agiter la main avec virulence. Ah non, ça c'est pas possible. En film, il y a des trucs que t'as raconté, là, ça ferait trop peur. Elle était en train de nous dire quelque chose d'important. D'abord que l'image projetée, le film, est perçue comme un envahissement. Elle m'impose une vision, un fait brut, qui peut me faire du mal et sur lequel je ne vais pas pouvoir agir. Et ça, c'est utile de se le rappeler souvent en ces temps où l'image projetée envahit tous leurs espaces, sans clé, pour la décrypter. Et puis cette petite était aussi en train de dire combien elle avait déjà saisi que le conte partagé allait lui permettre de traverser de l'émotionnel, de toucher à l'indicible, lui offrir la possibilité de vivre une série de transgressions symboliques. Par la force des images mentales que l'enfant se fabrique, il peut ainsi agir, traverser, transformer l'épreuve pour en faire sa nourriture, et puis grandir.
Et
c'est l'histoire d'un papa et une maman. Ils ont eu un enfant, mais quand il est né, il était tout petit.
Maman,
c'était
un petit doigt.
C'était pas un doigt, mais il était pas plus grand qu'un doigt, ça c'est clair. Ils ont repéré la vache, qui était là, au milieu du pré, en train de brouter. Alors le papa et la maman sont allés chercher tout ce qu'ils trouvaient. Des fèves, plein de fèves, en grosse quantité, des légumes qui sont cueillis dans leur jardin. Et ils ont déposé ça devant la vache. Oh, la vache, elle était contente. Déjà, elle avait mangé un bon chou, et maintenant, on lui donnait des fèves, et des légumes, et encore des légumes. Elle a tout mangé. Son ventre s'est mis à gonfler, et dans un énorme pouf, elle a pété patoufette. Il a vu son papa, il a vu sa maman, tous les deux ils l'ont ramassé et en se pinçant le nez, ils sont rentrés à la maison parce que quand même ils sentaient pas très bon. Et ils l'ont lavé
Ils l'ont bien séché, ils l'ont couché, ils l'ont bercé. Et mon histoire
est...
Je me souviens encore de ces mots d'un petit garçon. J'étais venue raconter pour son école maternelle et les enseignants avaient bien préparé les enfants à la venue de la conteuse. Et alors que les enfants étaient en train d'entrer dans la salle, ce petit garçon avait foncé sur moi comme une balle et les yeux plantés dans les miens, il m'avait demandé « C'est toi la conteuse ?»« Oui ?»« Et alors ? Tu vas compter jusqu'à combien ?» Bon, évidemment, j'ai beaucoup ri à l'idée que ce petit gars, tellement conditionné à cette idée qu'à l'école on apprend d'abord à lire et à compter, puisse se réjouir d'entrer dans une salle pour s'asseoir et puis écouter une dame qui va compter à l'infini. Mais en même temps, ce petit-là, sans le savoir, n'était pas vraiment loin du compte, et là qu'on l'écrive comme on veut. En effet, compter et compter ayant la même origine, la même racine latine, computare, littéralement énumérer et élaguer. Dans un monde pétri d'oralité, on énumère pour saisir le monde et en dessiner les contours. Computare, c'est déposer dans ton oreille ce qu'il y a d'abord dans ma tête, et puis organiser le chaos, inventorier nos possibles, aller ensemble à l'essentiel. Alors, finalement, cette année, à l'école de Diolfi, on a appris à faire le compte de nos ressources, et puis amplifier ce trésor fait d'immatériel. Ensemble, on a refait société. Recréer du bien commun, à partager et à transmettre à l'infini.
Rain drops on roses and whiskers and kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad.
cette émission, je voulais vraiment remercier le conteur Michel Hindenock et l'ethnolinguiste Suzy Platiel pour leur belle matière que je suis allée attraper au fil des deux beaux documentaires qui sont consacrés à leurs travaux. Je passe au petit agenda, puisqu'il y aura un agenda. Je vous annonce que du 5 au 10 juillet se tiendra dans la Drôme la 12e édition de la Marche des conteurs. Pendant une semaine, 30 conteurs professionnels et francophones vont mettre leur art au service de la rencontre, offrir leur parole contre l'hospitalité des habitants. Ce seront 4 veillées par soir sur différentes communes du territoire et le samedi 10 juillet de 17h à minuit, les 30 conteurs seront présents pour la grande veillée finale qui se tiendra dans le vieux village du Pouet-Laval. Vous retrouverez le reste du programme en allant sur le site de l'événement http://www.lamarchedesconteurstoutattaché.org. Voilà. Sur le bout de la langue, c'est fini pour cette saison. Je remercie Pauline Lemaire Desmarais et Océane Boisselot pour la réalisation. On se retrouve en septembre pour de nouvelles émissions sur les ondes de Radio La. Et d'ici là, ouvrez grand vos bras, vos cœurs, partez à l'aventure, nourrissez-vous en beauté. Et puis retrouvons-nous plus forts.